Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent...
Ça y est, puis 21h.
Marie Écheux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Je pense que la majorité des musiciens est intéressée par la vérité. Ils doivent l'être parce que exprimer une chose musicale est une vérité. Si vous vous affirmez musicalement, et si c'est une affirmation valable, ce sera vrai en tant que tel. Si vous jouez quelque chose de bidon, eh ben vous savez que c'est quelque chose de bidon. Tous les musiciens se battent pour atteindre autant que possible une certaine perfection, et la vérité est là-dedans, vous voyez. Ainsi, afin de jouer ce genre de choses, de jouer dans le vrai, vous devez vivre dans le vrai autant que cela peut être possible. Ce sont les mots de John Coltrane que vous citez dans votre ouvrage Jazz Suprême, Raphaël Imbert. C'est un livre qui sortira en poche au printemps, mais nous vous recevons ce soir pour votre nouveau disque. Il s'appelle Music is my hope et ce n'est absolument pas sans rapport. Il paraît chez Jazz Village. Pias, bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
On commence pas toujours par décrire les pochettes des disques qui sont la raison de nos invitations, mais en même temps, là, c'est comme une invitation à la décrire, cette pochette.
C'est fait pour. Ah oui, vraiment, oui.
On a l'impression que ça va nous indiquer quelques portes à ouvrir pour le reste de cette heure. Alors, je vous laisse entrer dans ce capharnaüm.
Ah oui, c'est un vrai capharnaüm. Un très bon ami à moi m'a dit, tu pourrais quand même ranger ta chambre avant de faire ce genre de photos. En fait, c'est pas ma chambre, s'il s'agit de l'atelier et de l'endroit où sont entreposées toutes les œuvres de mon grand-père, Jean-Claude Imbert, qui était un peintre assez connu... est reconnu dans le sud de la France. Je suis provençal d'origine. J'ai habité entre Aix et Marseille pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et donc là sont entreposées une œuvre pléthorique. Mon grand-père était quelqu'un d'assez boulimique de ce point de vue-là. Il y a, je crois, plus de 6000 œuvres à son catalogue. Et donc, il fallait un endroit pour stocker tout ça. Et mon père a construit une cabane pour stocker toute l'œuvre de mon grand-père et de ma grand-mère, Jeanne Coquart, qui était aussi peintre. Mon père l'est aussi. Et c'est un endroit dans lequel j'aime me ressourcer. C'est un endroit qui est pour moi un peu une sorte de matrice, en fait, d'une certaine manière. Et ce que j'aime particulièrement dans cet endroit... excusez-moi du terme, c'est le bordel. C'est-à-dire que toute la vie de ma famille et toute la vie intellectuelle de mon enfance, de tout ce que j'ai vécu avec cette famille-là, sont résumés là-dedans dans un capharnaüm, vous l'avez dit, absolument indescriptible, sauf qu'il faut le décrire. Et j'avais envie d'en plus d'en rajouter une couche. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur cette pochette, qui est quand même assez colorée, en fait, on a, avec Muriette Despiaux, qui est la photographe avec qui on a fait cette séance, on a surjouer le capharnaüm, et en fait on l'a totalement organisé, c'est-à-dire qu'on a rajouté plein de choses. Il y a plein de choses qui ne concernent pas mon grand-père. D'ailleurs, la seule chose qui concerne mon grand-père directement, c'est le tableau qui est derrière ma tête, un tableau très coloré qui montre bien d'ailleurs le style que Jean-Claude Imbert avait, quelque chose qui est très lié à la couleur, à la vivacité, à la matière, et tout le reste en fait on l'a rajouté. Et le but, vraiment, c'était ça. C'était faire poser des questions. Mais pourquoi il a mis ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les gens qui sont férus de symbolisme vont y passer des heures. D'autres vont essayer de découvrir toutes mes influences musicales, peut-être, ou des histoires de famille, pourquoi pas des histoires secrètes. Et ça marche. C'est vraiment génial, parce que depuis que le disque est paru, enfin, il y a pas longtemps, mais même avant, on a dévoilé la photo, immédiatement, on a eu droit à plein de questions. Et si je donne quelques pistes comme ça, j'avais envie de raconter mes passions, justement, d'enfants et d'adolescents qui étaient très liées aux sciences naturelles. C'est pour ça que vous avez le jardin du Sélacan. C'est une affiche d'une exposition qui était consacrée à ce poisson fossile vivant qu'on a redécouvert dans les années 30 près de Madagascar et qu'on pensait disparu avec les dinosaures.
Mais d'ailleurs, dans Jazz Suprême, dont je citais un extrait, vous parlez très bien de ces après-midi ou journées d'enfance que vous passez à observer la nature, les insectes, les plantes, et vous faites un lien absolument évident entre votre pratique de la musique aujourd'hui et la manière dont vous vaquiez à vos recherches, à vos observations quand vous étiez enfant.
Ah ben c'est totalement lié, c'est-à-dire que quand je suis devenu musicien, et ça a été... Ça aussi, je le raconte, vous avez tout en haut de l'étagère une photo d'un orchestre militaire. En fait, c'est mon grand-père qui joue du saxophone un autre grand-père, mon grand-père paternel.
Vous en avez combien?
Alors, figurez-vous que j'ai trois grands-pères et trois grands-mères, parce que ma mère était mariée une première fois. L'endroit où est cette cabane, c'est la famille de mon demi-frère. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance avec trois grands-pères et trois grands-mères. Ça a été aussi un truc incroyable qui a beaucoup déterminé mon sens du swing, puisque j'avais du côté une famille très catholique, pratiquante, une autre qui était très d'origine ouvrière, celle de ma mère.
Richesse des ascendances.
Ah voilà, et celle de mon père, c'était de la bourgeoisie marseillaise, mais qui était devenue artiste. Donc j'avais vraiment des racines très disparates et très, très développées dans tous les sens. J'ai vraiment l'impression, avec ce Capharnaüm, l'impression aussi d'un arbre avec des racines immenses qui vont puiser autant dans le terrain sec que dans un terrain marécageux. C'est vraiment ça aussi que je voulais montrer dans cette photo. Et ce côté science naturelle, justement, moi je suis jamais mieux que dans une salle du Muséum d'histoire naturelle à Paris, où sont stockés plus ou moins bien et plus ou moins facilement des cartons entiers d'insectes qui viennent du monde entier. Et pour l'anecdote, vous savez qu'ils sont encore en train de classer des insectes qui ont été ramassés il y a 100 ans. Et ils sont toujours en train de les trouver. Bah, c'est un peu cette impression-là que je voulais donner. Alors, il y a d'autres choses. Il y a des clés de maison devant la photo.
Assez en évidence, quand même, ces clés-là. Hein,
ça aussi, Music is my hope, ça raconte mon histoire. Autant mes problématiques d'engagement, qu'ils soient politiques ou philosophiques, mais aussi ma vie personnelle. Et le Capharnaüm, qu'est ma vie personnelle et qui a été ma vie personnelle ces derniers temps. Bah, des clés de maison. Le dernier album, c'est Music is my home. Ça me paraissait assez évident de montrer que j'avais des clés de maison, en fait, à disposition et assez près. Elles sont vraiment en évidence. Et puis, juste derrière, vous avez une photo de crucifix. On la voit pas très bien, mais elle est assez importante, d'autant qu'elle est à côté d'une divinité hindoue et d'une étoile à six branches. Moi, je m'intéresse beaucoup au spirituel dans le jazz, j'avais envie de le montrer, et ce crucifix a été construit, une photo d'un crucifix construit par mon grand-père, justement, paternel, le peintre, qui était aussi sculpteur. Et juste derrière, vous avez Paul Robson. La photo de Paul Robson, qui est un petit peu la figure tutélaire de cet album, qui parle tellement bien de ce qu'est l'engagement, de ce qu'est l'illusion de l'engagement, mais en même temps la force de l'engagement. Donc en fait, voilà, là, on pourrait continuer comme ça, on pourrait faire plusieurs émissions, peut-être en regardant tous les détails. L'autre chose qui me vient vraiment en premier lieu aussi, c'est tous les objets qui sont... Il y a la canne à pêche de mon fils, mon plus petit.
Il y a une petite roue de vélo en bas à gauche,
ouais, en fait,
qui est vraiment
un
une sorte de vélo d'enfant.
Ouais, mais c'est un monocycle. C'est l'idée de l'équilibre et du déséquilibre aussi que j'avais envie de montrer, et qui est devant mon saxophone. Et le saxophone est complètement... il est hors champ presque. En fait, d'une certaine manière, c'est montrer que... Oui, c'est important, ça fait partie totalement de ma dynamique. Mais ce qui est important de montrer, c'est tout le reste. C'est-à-dire que le musicien, ça se nourrit aussi d'autres choses.
C'est intéressant qu'on commence par parler de racines multiples, d'ascendance multiple, parce que dans Music is my hope, si on va de plage en plage, on peut vraiment presque regarder une sorte de kaléidoscope et puis se dire, ok, il y a un homme qui est au milieu, mais vraiment, on sent qu'il a envie d'éclairer les choses avec plein de directions possibles. Ce qu'on entend pendant qu'on parle, c'est un morceau un peu particulier. Est-ce que vous nous en parlez ?
Bah, c'est un morceau traditionnel provençal, en fait. Enfin, provençal. On pourrait même dire occitan au sens large. Alors là, les auditeurs qui nous écoutent, qui sont spécialisés de ces problématiques-là, hurleraient, parce qu'entre Occitanie et Provence et monde provençal, il y a des grosses différences aussi. Et j'ai grandi. La photo a été prise dans un atelier dans la campagne aixoise, entre le Luberon et Aix. Et c'est mon milieu, mon grand-père, celui de mon demi-frère, parlait provençal, et je n'en parle pas un mot. Je le comprends. Quand j'ai des amis, je pense à Manu Théron, qui est quelqu'un de très important pour moi, qui est un grand chanteur provençaliste et occitan, un grand créateur. Quand il parle le provençal, c'est une langue que je comprends, je l'ai entendu quand j'étais enfant, mais je ne la parle pas, j'arrive pas à la pratiquer, j'aimerais prendre le temps de le faire, et ça me pose question. Parce que Music is my hope, comme Music is my home, parlait des racines, notamment celles que nous, jazzman, même français, avons, à travers le blues, le work song, le spiritual, les protest song. On parle beaucoup, et j'étudie beaucoup, les traditions vernaculaires, les traditions populaires de toutes ces musiques-là, et la mienne dans tout ça. Et en plus, quand on écoute cela, quand on écoute cette chanson, qui est une chanson de mai, mais qui est une chanson sur le dépit amoureux absolument extraordinaire, d'ironie, d'humour et de désespoir, en même temps, ce sont aussi nos blues, c'est aussi notre patrimoine. J'aime pas le mot patrimoine, j'aime pas le mot, encore moins le mot pureté, tradition et tout ça, mais ça fait quand même partie de notre champ culturel, et on l'a complètement laissé de côté. Mélodiquement, c'est extraordinaire, poétiquement, c'est magnifique, et ça fait sens pour quelqu'un qui s'intéresse au blues au même titre qu'un morceau de John Lee Hooker ou un poème de Jacques Kerouac. Et aussi, d'une certaine manière, c'est juste se dire, oui, on est intéressé par tout ce qui... On vit une époque extraordinaire, mondialisée, là aussi le terme est un petit peu connoté. ça doit pas nous empêcher de regarder juste à côté de chez nous et de regarder d'ailleurs des gens qui ont cette capacité à faire vivre malgré tout ces traditions-là. Et le monsieur qui chante, là, c'est mon meilleur ami, c'est Manu Barthélémy.
Il chante plus, mais il a chanté sous nos voix.
Voilà, on l'a entendu un petit peu chanter. En fait, c'est le boulanger de Fort-Calquier, le village où je vivais avant. On a inauguré il y a 3 ans sa boulangerie à Fort-Calquier. Je le salue au passage. Et il s'est mis à chanter avec nous. C'était tellement beau que les musiciens qui étaient là ont dit, il faut absolument qu'on enregistre avec lui. Pour ces raisons-là, en fait, alors, on a cette mélodie, on a ce patrimoine-là qui se transmet de génération en génération, qui se transforme. J'ai trouvé dans un recueil de Vincent Dindy, le grand compositeur et professeur à la Scola Cantorum au fin du 19e, un recueil de chants populaires des Cévennes dans lequel on trouve cette mélodie, mais en majeur. Et ça se transmet, ça se transforme, bah, exactement comme le blues, exactement comme le jazz, comme toutes ces musiques où l'oralité ont une importance capitale. C'est important d'inscrire, je trouve, dans cet album, cette localité-là.
C'est une localité qui prend à la fois des dimensions, vous le disiez, absolument mondiales, et puis aussi qui est très élastique dans le temps, parce que c'est une localité que vous inscrivez au présent.
Joli.
Au présent, printemps, en invitant plein de monde, mais aussi en vous tournant vers des figures tutélaires, on va en évoquer quelques-unes jusqu'à la fin de l'heure. Il ouvre votre disque, ce Paul Robson, vous le disiez, en déclamant des vers. On a retrouvé une très vieille archive.
Notre dernier spiritual est le grand classique « Sometimes I feel like a motherless child ». Quelquefois, je me sens comme un enfant sans mère. Et ce grand spiritual est interprété magnifiquement par Paul Robson.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home, a long ways from home. Oh, my brother, a long ways from home.
Ce soir, vous avez entendu le Golden Gate Quartet, les Delta Rhythm Boys, Paul Robeson et Marian Anderson.
Simon Coppens, délégué de la Voix de l'Amérique, vous a présenté Negro Spiritual.
Simon Coppens qui invitait Paul Robson pour ce Negro Spiritual très fameux. Sometimes I feel like a motherless child. On voulait vous faire entendre cette archive 1959, la RTF avec les crépitements qui vont avec Raphaël Imbert. Paul Robson ouvre votre disque Music is my hope. Pourquoi ?
En fait, le projet, il est né. Moi, j'aime bien jouer avec les groupes que quand je fais un album, j'aime bien jouer d'abord en concert. Et j'aime bien en fait que une idée d'album naît souvent de concert et de demande un petit peu factuelle. En l'occurrence, en 2016, on célébrait les 40 ans de la disparition de Paul Robson, qui est mort en 76. Et d'ailleurs, c'est une célébration qui est passée inaperçue. Et pour cause. C'est un peu le genre de figure très 20e siècle. Il y a pas si longtemps, ça paraissait moderne de dire ça, et puis tout d'un coup, c'est passé. On prend un coup de vieux quand on dit ça. Quelqu'un dont l'engagement, on en parlera sans doute, était quand même assez important. C'est aussi Paul Robson, c'est l'artiste, l'intellectuel, la personnalité la plus citée par les jazzman que j'ai étudié en faisant Jazz Suprême, le livre. J'ai décortiqué énormément d'interviews. Et très souvent, les musiciens de jazz afro-américains disent, voilà, l'exemple à suivre, notre conscience, celui qui n'a pas cédé, c'est Paul Robson. Ça revient dans beaucoup d'interviews de musiciens très, très différents. Je pense à Dizzy Gillespie, je pense à Albert Tyler, je pense à Randy Weston, à beaucoup de gens comme ça. Donc déjà, ça m'intriguait parce que en France, quand vous racontez l'histoire du jazz et ce qu'on vient d'écouter, c'est un petit peu mis de côté. C'est un épiphénomène de l'histoire de la musique afro-américaine, ce qu'on appelle le negro spiritual classique, de format classique. Sous-entendu en plus, oui, c'est une époque où les musiciens et les artistes noir-américains singeaient un petit peu la musique classique, donc c'est pas authentique. Et c'est dramatique de dire ça. Et le résultat est là, c'est que quand une figure comme Paul Robeson disparaît, on l'oublie très rapidement, alors qu'il a nourri non seulement ces artistes dont je parlais, mais c'est pas pour rien qu'on met du Johnny Mitchell et du Pete Seeger dans l'album aussi, c'est-à-dire que c'était une communauté qui dépassait largement tous les clivages raciaux et politiques de l'époque, vraiment une communauté d'intellectuels et d'artistes dont qui avaient une conscience de ce qu'ils faisaient et de l'impact que pouvait avoir leur art sur la société de leur époque. Et en 2016, moi, j'ai envie de le faire, j'en parle à quelques amis, alors certains répondent présents, et c'est assez étonnant d'ailleurs pour moi que c'était des festivals qui n'avaient rien à voir avec le jazz. C'était le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et Bernard Foucroul qui m'a donné l'occasion en plus de faire une carte blanche. Je jouais plusieurs concerts et de créations dans le cadre du Festival d'art lyrique, et je le remercierai jamais assez, j'en profite de l'occasion, parce qu'imaginez le jeune jazzman qui a 15 ans aller voir les concerts du Festival d'Aix comme petit aixois, n'imaginez jamais qu'il mettrait les pieds sur scène d'un festival aussi prestigieux et aussi loin a priori de ses prérogatives, on va dire, et les Nuits de Fourvière à Lyon, qui tout de suite, alors les deux événements avec Dominique Delorme et Richard Robert, que je remercie aussi au passage, ont répondu présent tout de suite, et, oui, ça c'est génial, Paul Robeson, il faut en parler. Et finalement c'est logique, parce que Paul Robeson est une figure aussi importante dans le monde de la musique classique que du jazz et de la musique afro-américaine. Paul Robeson chantait dans ses concerts du Bach, du Dvorak, du Goudounov, au même titre que tous les chants populaires qui rassemblaient dans le même récital. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était des disques souvent qui étaient, dès les années 30, mais surtout les années 40 et 50, et notamment la période où il a perdu sa citoyenneté, son passeport à cause de son engagement communiste. Bah oui, être noir, artiste, communiste aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez les résultats. Eh bien, il a continué, quoi qu'il arrive, à militer pour la musique comme langage universel. Et c'est le premier artiste, je pense, vraiment, je vois pas d'autre exemple qui, dans un récital, alors c'est un format, c'est vrai, très classique, piano-voix, on voit cette solennité de la voix, mais vous avez vu, là, je sais pas, j'aimerais décrire ce qui s'est passé dans le studio dès qu'il a chanté, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de saisissement, mais ça, c'est quand même la force de cette musique-là, hein. On est saisi par cette présence, et tous ces concerts, c'est des chants populaires du monde entier, en hébreu, en chinois, en espagnol. Voilà, il a aussi milité pour soutenir les républicains espagnols au moment où ça se faisait pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'artiste qui a eu raison avant tout le monde, sauf sur une chose qui nous pose problème et qui peut-être fait que c'est un peu problématique, c'est que c'était un communiste très engagé, à tel point engagé qui a toujours refusé de renier cet engagement jusqu'à sa mort. Il a reçu le prix Staline en 52. Il a refusé d'accueillir certains grands leaders proches de Martin Luther King parce qu'ils avaient un discours anticommuniste. Il était quand même très charpenté dans ses convictions communistes, et d'une certaine manière, ça fait poser question aussi sur cet engagement. À la fois la force de l'engagement et l'illusion de l'engagement. Et bah oui, en fait, on a fait ces concerts. On a fait même ce concert à Fourvière avant Eric Bibb, qui est un immense bluesman, et que j'ai découvert à l'occasion que c'était le filleul de Paul Robeson. Parce que le père d'Eric Bibb est un immense chanteur qui était très proche de Paul Robeson. Alors il y a des choses comme ça qui font sens, hein, ça rejoint les lectures symboliques de la pochette qu'on avait tout à l'heure. Et on se dit, bon, bah, il faut faire un album avec ça. Et il faut rendre hommage. Rendre hommage, j'aime pas trop. Alors pas rendre hommage en jouant la musique telle qu'elle est. Juste parcourir son répertoire qui est immense. Puis composer d'autres choses, jouer un thème en provençal, proposer ses propres compositions et voir comment cela rentre en résonance en 2017 et en 2018.
Vous parlez d'un langage universel en faisant part de la grandeur de son répertoire, et vous lui faites dire quel mot en ouverture de votre album.
En fait, on a, avec Alban Moreau, qui est l'ingénieur du son et directeur artistique de la séance, qui est quelqu'un qui fait des miracles, on a récupéré, dans son fameux concert en 58, il revient au Carnegie Hall, le temple de la musique classique, et c'est son premier concert à New York depuis 11 ans. Il n'avait pas le droit de jouer avant pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc c'est son grand retour. Et au milieu du concert, il fait le dernier monologue d'Othello, donc de la pièce de Shakespeare, avant qu'il se tue lui-même, après avoir tué Desdemone de la façon dont on sait, pour des raisons obscures et manipulées. Et donc il fait ce grand monologue. Pour lui, il l'a très souvent dit, c'est quand même une des premières stars noires américaines à avoir joué Othello, hein, quand même le seul rôle du répertoire classique on dit que c'est un mort, un africain, enfin voilà,
un noir.
Voilà. Et il dit ce monologue dans ce concert-là, à son grand retour, avec une charge symbolique qui est très forte, parce qu'en fait, c'est. Et ça, c'est un thème du disque, en fait, c'est autour du destin. Mon destin, c'est celui-là, j'assume ce que je l'ai fait. Et il le dit d'ailleurs, il dit voilà, je vais vous dire le monologue d'Othello. Parce que c'est ce que je ressens maintenant en revenant au Carnegie Hall, quoi. C'est ce que je vis en fait. Après toutes ces trahisons, après toutes ces épreuves, je suis encore là, je suis encore debout, je ne sais pas pour combien de temps. Et finalement, Shakespeare l'a mieux décrit que moi, et il dit le texte. Et c'est d'une force incroyable. Et en plus de cela, c'est d'une musicalité, d'un rythme absolument hallucinant. C'est-à-dire que quand on a entendu, on avait fait les deux enregistrements séparément, la musique et le monologue. Mais en fait, le monologue, on l'a mis après. On s'est dit, mais ça colle tellement bien. Ça raconte aussi beaucoup de choses sur la musicalité de cette langue, celle qui donne le hip-hop dans un autre registre. C'est-à-dire que pour moi, Paul Robeson, c'est aussi le grand-père tutélaire de toutes ces musiques-là. C'est celui qui, voilà, quand on écoute ça, et j'ai fait l'expérience avec quelques jeunes qui sont très férus de hip-hop, ils disent, tiens, c'est marrant, c'est quoi ce truc-là? Il y a un rythme, il y a une sonorité, il y a une force, il y a cette force politique qui est finalement celle que beaucoup d'artistes dans le monde du hip-hop et de la musique urbaine tente d'avoir aussi.
J'ai commencé à étudier la France, le classique, à 5 ans.
À 5 ans.
5 ans.
Et vous avez continué, vous avez eu vos diplômes.
J'ai continué pour 22 ans et après j'ai obtenu,
c'est parfait.
Le doctorat de musique de Amherst University dans Amherst, Massachusetts et diplôme de Humanities at Malcolm X College dans Chicago.
Et là, vous avez décidé de chanter parce que je crois que c'était quasiment impossible de faire une carrière dans le classique lorsqu'on était noir.
Yes, they refused me at Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black.
C'est la voix de Nina Simone en 1991, au micro, vous l'avez reconnu, de Eve Ruggieri. Cette archive, Raphaël Imbert, pour parler, vous le disiez à l'instant, du destin. Music is my hope, c'est le titre de votre disque, et vous disiez que c'est une manière de dire, voilà de quoi je suis fait, voilà où je vais, voilà de quelles multiples ascendances, références, espoirs je suis fait, et on l'entend dans la voix de Nina Simone. J'ai appris à jouer de la musique classique enfant et au moment où s'est posée la question de savoir si j'allais devenir une grande musicienne classique, s'est posée l'autre question, à savoir ma couleur de peau. Nina Simone, elle est aussi là, d'une certaine manière, dans le disque, au moment où la question des femmes arrive, au moment où la question, en effet, du destin des musiciens arrive. Elle a quelle place dans ces multiples racines pour vous?
Pour nous, en plus, je me suis entouré de deux chanteuses incroyables qui sont Marion Rampal et Aurore Imbert, qui est ma sœur. Et Nina Simone, pour nous, c'est une référence absolue. En plus, elle a un rapport à la France qui était compliqué quand même. Alors nous, comme on est aixois, ma sœur et moi, et puis Marion Rampal, elle vient de Marseille, elle a fini ses jours à Bouc-Bélair, tout près de chez nous. Et on savait qu'elle était là. Vous vous rendez compte, quand vous êtes des jeunes musiciens de jazz et vous savez qu'il y a Nina Simone à côté de chez vous. Alors, elle était assez particulière. Donc, on avait peur de ça aussi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On va aller la voir. Il y avait des amis qui avaient joué chez elle aussi. Il y avait plein de légendes qui tournaient autour d'elle.
Elle est dans les parages, quoi.
Elle est là. Bah, elle est là, quoi qu'il arrive. Mais je pense que vous seriez à Tokyo. Elle serait tout aussi présente, hein, évidemment. Et ce destin-là, elle a surtout eu la force de le dire et de le raconter. Parce qu'en fait, c'est le destin de tout. Quasiment tous les grands jazzman, hommes ou femmes. Alors en plus, le jazz est un milieu assez misogyne dans son histoire, qui est d'ailleurs à la mémoire courte. Ça fait partie des sujets de recherche que j'aimerais bien travailler. C'est-à-dire que tant que le jazz n'est pas enregistré et médiatisé au point où on le sait, les orchestres sont mixtes, noirs et blancs, et les orchestres sont mixtes, hommes et femmes, et il y a même des orchestres de femmes qui ont fait le jazz au même titre que les orchestres d'hommes. Et ça, on l'oublie aussi beaucoup. Et ce rapport au classique est particulier, parce que vous avez écouté Paul Robeson, vous entendiez tout à l'heure aussi le présentateur, je croyais que c'était André Francis, mais en fait c'est Coppens, hein, c'est ça, qui parlait de Marian Anderson, toute cette tradition d'artistes qui ont réussi à s'imposer comme chanteurs classiques, et c'est assez merveilleux, il y a une grande tradition là-dessus. Alors les instrumentistes, c'est une catastrophe, on connaît les enregistrements de Fats étoileur de Bach. C'était un amateur de Bach au plus haut point. Enfin, c'était la musique qui le nourrissait aussi. On connaît la passion du violoncelle classique de Charles Mingus. On connaît tous ses destins qui ont été cassés pour des raisons de racisme institutionnalisé, de racisme d'État. Et le parcours de Nina Simone, vous ajoutez à cela la place de la femme dans cette histoire-là, et à l'époque où elle est apparue, où finalement une instrumentiste doit devenir chanteuse si elle doit se faire une place dans ce milieu-là. Elle le fait à contre-cœur, et elle le fait pour notre plus grand bonheur en même temps, parce que c'est absolument merveilleux. Et vraiment, les premiers albums qu'elle a fait, les albums, autant que je sache, elle a un peu renié, vous entendez parfaitement cette influence-là. Elle fait du contrepoint, de la fugue improvisée sur des blues, sur des standards, sur toute forme de musique de jazz. Elle montre qu'elle est capable de le faire, et en plus, elle montre qu'elle est capable de le swinguer, ce qui est quand même assez incroyable. D'une manière qui a rien à voir avec toutes les tentatives de faire swinguer Bach qu'il y avait à l'époque, notamment en français. C'est vraiment une invention, pour reprendre le titre d'une des grandes œuvres pour piano de Bach, une invention perpétuelle. Malgré tout, on sent aussi un énorme dénuement là autour de ça, un sentiment d'injustice qui va la dévorer d'une certaine manière. Et pour nous, on a envie de le raconter à travers un titre qui est dans l'album qui s'appelle Blue Prélude, qui était un tube de Paul Robeson, qui a été repris par Nina Simone, qui a une présence dans le disque assez importante, c'est un morceau très blues, et on est ces mêmes dépits amoureux qu'on décrivait dans Vaki tout à l'heure, la chanson provençale, ce même rapport aux relations sentimentales qui, on a presque l'impression qu'elles ne peuvent être que catastrophiques, en fait, quand on écoute ces chansons. Et c'est quand même une façon de le raconter, un art de la transmission et un art du désespoir qui sont assez incroyables. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Nina Simone, c'est comment elle montait ses récitals au même titre que Paul Robeson. C'est-à-dire que finalement, il y a une grande diversité. Vous parliez tout à l'heure de l'album comme quelque chose de très, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses différentes, mais il y a une ligne commune. Moi, je crois beaucoup à ce que j'écoute quand j'écoute ces musiciens-là, Paul Robeson, Nina Simone, ces artistes-là, c'est que finalement ça part dans tous les sens, mais avec une ligne commune. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne comme dynamique.
C'est-à-dire une sorte de note qui est tenue, l'infrabasse, le.
Oui, alors dans le cas de la voix de Robeson, c'est une évidence. Enfin, la voix de Robeson fait lien commun, en fait. C'est ça, c'est assez fort. La puissance dramatique de Nina Simone fait lien commun. Et pour nous, la thématique, d'une certaine manière aussi, cette thématique du destin, de l'engagement, on va chercher dans différentes traditions, mais la ligne conductrice est là, et à travers le son aussi, c'est très important. C'est pour ça que, par exemple, ce sont des albums, celui-là et celui que j'ai fait juste avant, Music is My Home, qui tournait vraiment autour du blues, mon jeu de saxophone, je l'ai marqué vis-à-vis du free jazz, pour montrer que je viens de là d'ailleurs, qu'il n'y a pas de différence entre... Tout à l'heure, on entendait Nina Simone parler en français, et pendant quelques secondes, je me posais la question de savoir si c'était Archie Shepp, que quelqu'un que je connais très bien, qui est très proche de nos convictions, on peut le dire. On est très proche de lui avec Marion, Pierre Durand qui est sur l'album, on le connaît bien, on joue souvent avec lui. Et ce sont des gens qui ont défendu cet engagement de la même manière. Et je me suis posé la question aussi parce que voilà, cette diversité-là est tenue, dans un concert d'Archie c'est pareil, les albums d'Archie c'est pareil, sont tenus par un lien, une idée commune, quelque chose qui fait sens sur un album ou même sur une carrière aussi, pourquoi pas. Et Archie, qui vient du free jazz, a toujours joué le blues. J'ai essayé de comprendre ça. C'est parce qu'on fait tellement la différence. On dit le free jazz, c'est la musique d'avant-garde de la communauté intellectuelle urbaine afro-américaine. C'est beaucoup plus large que ça. En fait, les outils du blues, vous les entendez tout le temps chez Anthony Braxton, chez John Coltrane, que vous citiez tout à l'heure, chez Ornette Coleman, ces gens-là. Et donc, pour moi, au niveau sonore, quand je réfléchis à Paul Robeson, à cette présence, à cette voix-là, j'essaye à mon niveau d'avoir un son de saxophone qui puisse faire ce sens-là aussi, en le marquant vers la tradition du free jazz, qui est en fait une invention d'avant-garde qui n'a jamais renié ses origines. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Si on avait eu les micros ouverts pour le début de ce morceau, on aurait pu tous vous entendre Raphaël Imbert lâcher des petits « ouh ! Ouais ! Ouh ! » à certains virages de la mélodie et sur certaines manières de poser la note. Bon, il est arrivé plusieurs fois dans votre discours, John Coltrane, ici avec Liberia, parce que vous disiez finalement, il y a un fil conducteur non seulement dans mon propre disque « Music is my home », mais aussi peut-être dans mon propre travail. On n'a pas jusqu'alors parlé plus précisément de votre instrument. C'est aussi un des grands fils conducteurs de votre travail.
Dans tous les cas, que ce soit le saxophone ou John Coltrane, pour moi, c'est la même chose. On a affaire à... Je sais pas, j'en parle souvent avec mes amis musiciens classiques, du rapport qu'ils ont aux ancêtres, aux anciens et à leurs instruments. Et nous, on a ce rapport particulier au... Surtout quand on fait du saxophone dans le jazz, c'est quand même... C'est fort. La présence est forte. Elle est problématique aussi. C'est-à-dire qu'on est en 2018 et... Qui est sorti de l'influence de John Coltrane, si tant est qu'il faille en sortir. Enfin, je veux dire, c'est un peu la grande question. Et en fait, c'est marrant parce que il y a ceux qui ne veulent pas se poser la question, qui n'en parlent pas, puis il y a tous les autres qui en parlent systématiquement en essayant d'en sortir. Et il nous a pas facilité la tâche, John Coltrane, parce que ce qu'on sait moins, c'est quelqu'un qui était quelqu'un qui se laissait influencer énormément, contrairement à ce qu'on pense. Nous, on le voit comme une sorte de monolithe. Enfin, c'est notre Paganini, notre Stradivarius et notre Bach, tout en même temps. Donc, compositeur, concepteur, conceptualisateur et instrumentiste. C'est fait beaucoup. Mais de son vivant, c'est quelqu'un qui était à l'écoute de tout et qui s'est laissé influencer, notamment, il y a plusieurs, d'abord par des gens comme Dexter Gordon, Benny Golson, ensuite de Jimmy Heath, qui est toujours parmi nous en plus, donc on peut en discuter avec lui si on a la chance de le faire. Et ensuite, il va se laisser vraiment influencer par des gens comme John Gilmour, qui était saxophoniste de Sun Ra, par Archie, dont on a parlé, par Albert Tyler et par Ornette Coleman. La grande transformation de la musique qu'on vient d'entendre, c'est sa rencontre avec la musique d'Ornette Coleman, qui invente le free jazz, qui était vu comme un escroc par 99% de ses collègues. Et Coltrane a dit non, ça c'est la voie à suivre. Et d'ailleurs, c'est la voie qui va me permettre, moi, de me sortir de mes propres enfermements. Il avait poussé tellement loin la virtuosité de l'instrument et la théorisation de l'harmonie bop et post-bop qu'il estimait lui-même qu'il était enfermé là-dedans. Et puis en même temps, il va écouter les musiques du monde entier. Alors ça, moi j'ai eu la chance de discuter avec Michel Delorme qui nous a quitté il y a quelques temps, qui est un des biographes de Coltrane et qui était très proche de sa famille, de ses enfants, de Alice Coltrane, et qui a eu la chance de voir la bibliothèque de Coltrane, ses livres. Ça, c'était incroyable, c'était des traités de musicologie de toute la musique occidentale, énormément de documents sur les musiques du monde entier, et beaucoup de philosophie et de recueils de philosophie et de religion extra-occidentale. Donc on a quelqu'un d'une curiosité immense et qui va, mine de rien, même si le rapport à l'Afrique, comme on l'a entendu sur Liberia maintenant, dans d'autres thèmes, le rapport à l'Inde, le rapport à l'Asie ou à l'Orient, sont des rapports, comme beaucoup d'artistes américains, lapsus révélateur de l'époque, des rapports fantasmés, mais malgré tout ça fait sens et ça montre l'influence et la façon dont ils ont transformé leur art. Donc on est un peu embêté, nous, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a un monolithe théorique absolument incroyable et en même temps quelqu'un qui lui s'est totalement laissé influencer. Comment nous, à notre époque, on peut se laisser influencer comme il l'a fait? C'est très compliqué de le faire, et alors il faut chercher des échappatoires et puis se rendre compte au bout d'un moment que non, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours force d'exemple, et en plus on l'a entendu parfaitement, bah oui, c'est un blues. Je reviens à cette notion de on peut faire aller de l'avant, on peut être à l'avant-garde des idées et de l'esthétique de son époque en s'enracinant réellement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, alors français particulièrement, alors musiciens français particulièrement, est très compliqué à assimiler.
Pourquoi ?
Bah parce que dans les conservatoires et dans les traités de musicologie, on est beaucoup sous l'influence de quelqu'un qui nous a quitté l'année dernière, qui est immense au niveau intellectuel, notamment Pierre Boulez, qui en plus n'était pas qu'un grand amateur de jazz, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de toute cette pensée-là, où finalement il faut faire table rase du passé pour inventer. Les artistes afro-américains, au même moment, nous montrent exactement le contraire. Et nous, on doit choisir notre camp.
Ou mélanger.
Ou mélanger, justement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, on peut être influencé par tout ça. On peut aussi avoir un rapport distancié avec des racines qui, en plus, ça veut dire quoi pour un artiste, moi qui ai grandi à Aix-en-Provence, de dire que mes racines sont au Mississippi? Mais c'est le génie de notre époque de pouvoir dire ça. C'est ça qui est extraordinaire. Donc finalement, on peut s'inventer les racines que l'on veut et les influences que l'on veut.
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time.
Alors, évidemment, Woodstock en 69, c'est à la fois un moment charnière parce que c'est la fin du rêve. C'est vraiment le moment où on va avoir 3 jours très symboliques de calme, de musique, pas toujours bonne d'ailleurs, il suffit de regarder le DVD de Woodstock pour s'en rendre compte, mais qui est un moment d'harmonie, de chansons qui rassemble à peu près tout ce qui se fait de bien, en dehors de Dylan, soit dit en passant, qui refuse finalement de participer à Woodstock alors qu'il habite à côté, mais qui rassemble à peu près tous les grands groupes de l'époque pendant 3 jours, dans une atmosphère très bon enfant, très réussie, mais qui est le dernier grand festival réussi.
C'est la fin du rêve, on arrête de s'amuser et de balancer des F-U-C-K aux yeux de l'Amérique et du monde. C'est la voix de Charles Gansel, qui est un extrait de Dans 2000 ans d'histoire, une émission qui était consacrée à l'époque aux protest songs. Évidemment, quand on réfléchit aux protest songs, on passe par quand même ce grand festival. Raphaël Imbert, dans Music is my hope, il y a le mot hope, donc il y a aussi toute l'histoire de l'espoir politique liée à l'espoir et l'histoire musicale. Quelle est la place de justement cette idée du protest song dans la mesure où vous invitez des Pete Seeger et compagnie?
Cette place, elle est importante. Je suis très réactif par rapport. C'est qui parlait? C'est Charles Dancing, c'est ça?
Non, Gansel.
Gansel, ah oui, d'accord. Charles Gansel à propos d'Woodstock.
Vous n'êtes pas d'accord avec le fait que c'est la fin du rêve?
Je suis d'accord avec à peu près rien de ce qu'il a dit. Je trouve ça aussi, c'est toujours très marrant. Sans doute quelqu'un qui a connu Woodstock. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient à Woodstock et ils aiment tellement dire que c'était bien. À ce moment-là, qu'eux, ils ont la chance de le vivre, ils peuvent avoir un rapport très distancié, dire que c'était mauvais, que c'était un grand festival qu'on n'a pas eu depuis. Moi, ça me fait doucement marrer et j'ai 43 ans et je suis encore plein d'espoir par rapport à ça. C'est aussi un peu ça que j'ai envie de raconter parce que finalement, il n'y a rien de plus réactionnaire que de dire ça, quoi. Et Woodstock, c'est ni un début ni une fin, c'est un moment important. Alors moi, en tant que jazzman, je trouve que c'est un moment important de l'histoire du jazz parce que rien n'est fait à Woodstock qui n'ait pas une influence et ou un rapport important à ce que faisaient les jazzmen à l'époque. Alors, le jazz a eu son moment de gloire industrielle, qui sont les années 30. C'est là où les big bands existent et c'est là où ils sont en sommet des charts. Donc, le jazz a une importance. Elle vient de la musique populaire, qui n'est pas la musique de l'industrie. On dit toujours est populaire ce qui se vend le plus. Non, ce qui est populaire, c'est ce qui émane d'une communauté et d'un peuple. Ça n'a rien à voir. Le jazz a eu son moment, son âge d'or, on va dire, où il était à la fois une musique populaire et une musique de vente. Voilà. Et puis évidemment, il y a le rock'n'roll qui arrive et plein d'autres choses qui arrivent. Mais le jazz a toujours eu une influence sur ces musiques-là. Et on en parle de 69. On parle de Miles Davis, on parle de Frank Zappa, on parle de tas de gens qui, alors, certains, Miles Davis n'est pas à Woodstock, mais était à l'île de Wight, ce qui revient à peu près au même. Et je suis désolé, déjà, quand on est à l'île de Wight à côté de Woodstock, on ne dit pas que c'était le dernier grand festival. Et il se passe plein de choses comme ça. Et à Woodstock, alors je sais pas, oui, il y a des mauvaises chansons à Woodstock. Moi, je n'en ai pas entendu beaucoup. Parce que je pense, mais ça, c'est le musicien qui parle, qu'un musicien qui est là a des bonnes raisons d'être là. Il a été choisi, coopté, d'une certaine manière, par une communauté d'idées. Il y a quand même 600 000 personnes hein, au grand moment de Woodstock. Il chante devant 600 000 personnes et là, en l'occurrence, il n'y a personne qui se plante. Que ce monsieur me trouve un morceau où et un groupe et un chanteur qui se plante devant les 600 000 personnes. Ce qui devrait arriver d'ailleurs par la terreur que ça peut représenter, par l'événement. Il n'y a pas un musicien qui soit monté sur scène à Woodstock qui ne dit pas qu'il savait qu'il participait à l'histoire. Et puis c'est un changement radical de civilisation, d'idées, tout ça. Moi, je ne peux pas voir cela comme une fin. Et je pense que, et je trouve vraiment... Moi, je sais pas quels sont... Je peux parler de mes engagements, de mes espoirs, notamment politiques, personnels et tout ça. Mais la première chose qui est importante pour moi, en jouant, par exemple, Pete Seeger, Joni Mitchell, Paul Robson, en tant que jazzman
qui
français...
Qui sont présents dans Music
Qui sont Mario. Vraiment présents dans cet album, c'est de faire démentir ce qu'on vient d'entendre.
Mais on sent bien, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de dire, ben non, mais pas du tout, en fait. Ni l'espoir n'est terminé, ni notre joie à faire de la musique, ni notre joie à partager des cabanes remplies d'art, remplies de disques, de livres, de monocycles d'enfants. Non, mais comme si ça faisait partie de quelque chose de déclaratif pour vous, Raphaël Imbert. Vous avez envie de dire ça?
Ah oui, complètement, parce qu'en plus, c'est aussi un ras-le-bol, aussi, d'avoir toujours entendu ça, en fait. D'avoir toujours, oui, bah finalement, c'est fini, tout
la
ça.
La joie, c'est derrière,
la joie, c'est derrière. Non, non. Et puis la lutte, elle est là aussi, de plein de manières différentes. Je ferme aucune porte, moi, déjà dans mes amitiés, avec mes amis intellectuels, musiciens, artistes, et les gens de tous bords politiques, et c'est important. Moi, j'ai mes convictions propres. J'essaie de voir comment elles peuvent nourrir ma musique et comment ma musique les nourrit. Et puis vous savez, j'ai une expérience l'année dernière, j'ai joué au French Quarter Festival au sein du Winter Jazz Festival à New York en janvier de l'année dernière, au moment où Trump était intronisé. Et je vous garantis que ce soit du côté français ou américain, tous les musiciens qui étaient là, c'était je sais pas combien de dizaines de concerts tous les soirs, tous les morceaux, tous les discours qui ont été donnés sur scène faisait apparaître le problème que posait cette présence, cette investiture. Et c'était d'une force, alors je ne sais pas quel est l'impact que ça va avoir sur la société, et alors guerre, on s'en fout, il se trouve que Pete Seeger, lui, il a eu un impact. C'est-à-dire s'il me faut montrer que la musique peut avoir un rôle, quand il ressort We Shall Overcome des tréfonds d'une bibliothèque où il aimait passer son temps parce que c'était un gros bosseur en plus, et qui dit ça, c'est la chanson qu'il faudrait peut-être à Martin Luther King, à tous nos amis, pour ses manifestations, et qui change les paroles en fonction de ça, bah il change, il le disait lui-même, il dit moi j'espère que ma musique va pouvoir avoir un rôle, changer la société. Coltrane lui disait que il espérait que sa musique change le climat même, l'ambiance générale. Il l'a fait aussi. Et on parlait de Bob Dylan, oui, il a refusé d'aller à Woodstock, mais il est prix Nobel maintenant.
Alors que c'était à côté de chez lui.
Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Ils ont organisé tout Woodstock en espérant qu'il vienne. Vous vous rendez compte la force d'un artiste, et c'est pour ça que moi, son prix Nobel est largement mérité pour moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. C'est quelqu'un dont on organise le plus gros festival de l'histoire en espérant qu'il vienne. C'est quand même génial comme histoire. Alors il y a tous ceux qui vont et tous ceux qui arrivent. Je pense à Richie Evans qui est le premier à jouer à Woodstock. Il est tout seul face à ces 600 000. Il y a peut-être pas 600 000 personnes, mais il y avait quand même plusieurs centaines de milliers. Et il joue. Il est censé jouer que deux chansons. Et comme tous les groupes sont en retard parce qu'ils peuvent pas venir, il va faire un récital d'une heure et demie tout seul avec quelques camarades qui jouent les congas. Bah, je sais pas si le monsieur qu'on a entendu estime que ça c'est raté. Pour moi, c'est un des plus grands moments de jazz et de musique de l'histoire du XXe siècle.
Quand vous titrez votre disque Music is my hope, ça dit que votre espoir est dans la musique, ça veut dire que la musique déclenche ça chez vous, ça veut dire qu'il y a en vous de l'espoir et la musique est là et vous en faites quelque chose. Ça veut dire quoi exactement,
Raphaël? La première chose, c'est que la musique m'a sauvé à beaucoup de moments de ma vie. Je parlais de mes amours de sciences naturelles là, quand j'avais 15 ans, mais ça a été une période très compliquée. C'est d'ailleurs la période où mon grand-père disparaît. Et la disparition de ce grand-père, que je célèbre avec cette pochette et cette photo, a été un coup dur, un peu plus que dur pour moi. Et la musique m'a sauvé à ce moment-là. Je viens de passer quelques moments de ma vie, ces derniers mois et ces dernières années, assez compliqués. Et la musique m'a sauvé à nouveau. J'en parle avec beaucoup de mélomanes, d'amateurs et de musiciens, et en fait, on vit tous les mêmes choses. C'est bien à un moment donné de l'assumer. Moi, j'aime bien le raconter, en fait. Et en fait, ça, et en plus de tout, dans tout cela, au milieu d'une époque politiquement, sociologiquement et sociétalement extrêmement complexe. Les attentats, les élections. Moi, toute cette époque-là, je vivais en Provence depuis mon plus jeune âge. Je vis dans des régions où 40, 50, 60% de la population vote Front National. Des gens que je connais, certains que j'apprécie en tant qu'amis, des amis de lycée, de collège et tout ça. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? En plus, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un euphémisme, mais j'essaie de pas être désespéré, de manquer d'espoir quand des gens que vous connaissez, ont ces convictions-là, mais en même temps, ils viennent vous voir au concert. Parce que quand vous jouez en Provence régulièrement dans la campagne, vous savez que parmi les gens qui adorent vous suivre et tout, il y a des gens qui pensent qu'il y a trop d'émigrés, qu'il y a trop de migrants. Je parle même pas des problèmes de migration en ce moment. C'est un peu au cœur de nos problématiques aussi. Et là, je joue par exemple pour un festival à Briançon qui s'appelle l'Altitude Jazz Festival. Le soir de notre concert, il y avait 15 Guinéens jeunes qui passaient le col à moins 15 degrés en pleine neige pour essayer de venir chez nous et passer dans un autre monde avec tous ces problèmes de migration. Ces questions-là, elles sont centrales pour nous et on ne peut rien faire. Moi, je ne sais pas, en faisant un disque, évidemment, Jeff Koons pense qu'en c'est en nous offrant des fleurs devant le palais de Tokyo qui va nous sauver. Moi, j'ai aucune conviction là-dessus, mais malgré tout, c'est pas pour ça que je vais rien faire. Mais avant toute chose, c'est là, oui, la musique m'a sauvé. Alors, si elle m'a sauvé, peut-être que ça, il faut quand même continuer à croire qu'elle va nous sauver. Vous savez, on a entendu là, c'est donnez-moi un F, donnez-moi. Vous avez eu ce rapport là. C'est de la musique, c'est pas de la scansion, c'est pas une manif entre République et Bastille. Parce que je regrette beaucoup la musique qu'on faisait dans les manifestations en France il y a quelques décennies. Et maintenant, on met des sound systems à fond. Alors que là, on entend 600 000 personnes qui chantent, qui répondent. Le call and response, on voit le rôle que la musique a été inventée par les Afro-Américains a eu sur toute la société américaine et par extension sur la nôtre. Oui, la musique donne un rythme à nos convictions, donne un rythme à nos sentiments qui sont parfois. Alors d'ailleurs, ça peut pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu vampirisant. Faut savoir s'en sortir aussi de temps en temps.
De la musique.
Ouais, de la musique et de cette tradition-là. La tradition afro-américaine, elle est quand même très simple. Elle est extrêmement efficace et efficiente pour plein de choses, pour improviser, pour dialoguer entre nous. Dans Jazz Suprême, je le raconte. Ça, c'est pas pour rien que la musique est devenue le langage américain. Dans une société, le 19e, 18e, 19e et 20e siècle aux États-Unis, c'est une société qui ne parle pas forcément bien anglais. Enfin, il y a des niveaux de langue sémantiquement qui sont très disparates. Donc, il faut trouver un autre moyen de se faire comprendre, notamment la répétition. On répète beaucoup. Vous rentrez dans un magasin, vous demandez quelque chose, vous voulez du pain, oui, je veux du pain, vous voulez du pain, il y a ce truc-là. Mais la répétition crée le rythme crée un swing aussi. Donc il y a une logique entre la langue et la musique qui est parfaitement organisée. C'est bien de récupérer ces traditions et d'essayer d'en faire autre chose.
It's directly related to how we live. Our music is how we live. What I just explained about.
On se sert de tous ces instruments pour jouer tous ces styles de musique. C'est notre façon de vivre. Des gens du monde entier viennent ici. Toutes ces cultures, toutes ces langues, on vit tous ensemble et on s'entend bien. Parce qu'on a appris à se mélanger et à accepter toutes nos différences. On se respecte.
Being a human.
On est tous
just
des êtres humains.
Human being here. And we have many differences, but in the end we are all alike.
On est tous différents, mais au final on se ressemble tous.
We need the same things to exist.
On a besoin des mêmes choses
and
pour vivre.
Like
tu fais ce que tu veux.
We mind our own business. You do what you like to
et
do.
Et je ferai ce
and
que
I'll
je veux.
What I like to do.
Je
I
ne te gênerai si tu ne me gênes
me.
Pas.
And if we like
et si on aime les mêmes choses, on pourra les faire ensemble. Et si tu n'aimes pas ça, trouve des gens qui font ce que tu aimes. Ici, on vit comme ça. Le groupe le plus diversifié du monde s'entend mieux ici que nulle part ailleurs.
It's free. It's free. Totally free. Unbounded.
On se sent libre et sans attache. C'est notre état d'esprit.
It also is a constant rejoicing of being free.
C'est une joie constante que d'être libre
from slavery.
De l'esclavage probablement.
And everything else that came after that that tried to
nous méprisons tout ce qui essaie de nous enchaîner ou de nous parquer dans un groupe ou à un endroit précis.
That's what our
c'est comme notre musique.
I say it all the time.
Je le dis tout le temps.
We have no boundaries.
Nous sommes des sols rebelles.
I'm just one sure man, trying to make one honest living. Got just one soul to save before my time to sleep. When I was a little baby, my mama gave me food to eat. Daddy gave me a place to sleep, and I gave them the love of a child. At the end of a long road, there's a better day. Play your cards right. Play your cards right.
Dans le petit livret qui accompagne votre album Raphaël Imbert, vous dites que c'est un adieu magnifique, une cerise sur le gâteau, que ce dernier morceau, c'est, donc ça clôt à la fois votre album Music is my hope, et c'est à peu près en train de clore notre émission, notre entretien. Pourquoi adieu magnifique ?
Parce qu'en fait, j'ai rencontré Big Ron Hunter, qu'on vient d'entendre, c'est un chanteur de Winston-Salem en Caroline du Nord, et ça fait partie de ces trésors vivants que ce pays et ses traditions préservent malgré tout. Et le soir d'un concert, juste avant, j'ai dit, écoute, tu sais, je vais faire un nouvel album, Music is my hope, et j'aimerais bien que d'une manière ou d'une autre, tu sois présent dessus. Et il dit, bah, prends deux micros, on met ça devant la guitare, je vais chanter près du micro, on en met un pour toi au saxophone, et on va enregistrer deux chansons. Et on a choisi celle-là qui a un... Ça dit ce que ça doit dire, en fait, tout bêtement. C'est, joue ton jeu correctement, quoi. Voilà. À la fin d'une longue route et dans des jours meilleurs, si tu joues correctement ton jeu, tout se passera bien. Et je vous garantis que le soir où il m'a chanté ça, c'était pas un soir où j'allais très bien. Et maintenant, en fait, je suis très ému, en fait, d'écouter ça et d'en parler. Et tout va mieux maintenant, grâce aussi à ça. Donc oui, c'est le meilleur adieu qu'on puisse faire, et que Big Ron soit présent sur cet album de cette manière-là, c'est un cadeau des dieux, quoi, vraiment.
Et d'ailleurs, quand il dit, quand il chante « Joue tes cartes bien », on peut aussi le traduire en français en disant « Abat ton jeu », c'est-à-dire il y a une forme de dévoilement, je trouve.
Exactement. Et c'est d'ailleurs, moi j'ai fait, pendant ces périodes d'un peu de crise et tout ça, je faisais les tournées avec lui et Alabama Slim, qui sont donc deux vieux bluesman très ancrés dans toutes ces traditions-là, et en fait, c'était quasiment j'avais presque l'impression d'avoir des directeurs de conscience avec moi, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le côté religieux, mais vraiment des gens, voilà, quand on voit ce qu'ils ont vécu, ces gens-là, on a affaire à des gens qui sont des musiciens remarquables, des artistes et des concepteurs incroyables et qui ont jamais gagné leur vie grâce à leur art, qui ont toujours eu des boulots à côté, dont la vie a été terrifiante. Et la seule chose dont ils me disaient, c'est il faut faire des choix, voilà. Abat ton jeu, sois clair là-dessus. Alors ça peut paraître du la philosophie de prise unique.
Ça peut paraître très pragmatique.
Et aussi. Ça peut paraître très pragmatique et pratique aussi. Et en fait, l'aspect concret de cette philosophie-là qu'on retrouve dans le blues, dans toute l'histoire de cette musique, extrêmement salutaire. Et même l'aspect engagement politique est intégré dedans. Je veux dire, dans l'album, il y a toujours ce ping-pong, ce va-et-vient entre l'engagement personnel et l'engagement politique. Ça ne dit rien de plus que cela. Abat ton jeu, oui, c'est ça. Sois clair, voilà. Ce que j'ai en magasin, c'est ça. Oui, ça clôt l'album de façon idyllique.
Cet album, il s'appelle Music is my hope. Je l'ai dit tout à l'heure, il est paru Jazz Village, Piass. Et puis, comme on a parlé à plusieurs reprises, en fait, de cet ouvrage Jazz Suprême, eh ben, on dit qu'il sera en poche, c'est-à-dire dans toutes les poches, au printemps prochain.
Oui, très bien. On met normalement, si tout se passe bien.
C'est parfait. C'est d'autant plus parfait qu'au mois de mai, vous serez aussi à Coutances pour le festival Jazz sous les pommiers le 6 juin pour les Nuits de Fourvière et à Paris, à l'Alhambra, pour le festival Au fil des voix le 14 février. Merci beaucoup.
Merci.
Par les temps qui courent, dans quelle direction vous regardez ?
Toujours au sud.
Par les temps qui courent, quel livre garder ouvert près de soi ?
Ah, Belle du Seigneur.
Et par les temps qui courent, une petite chanson pour le soir ?
Les gens qui doutent d'Alain Sylvestre.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain. C'est vraiment tissé de sens cette émission. Par les temps qui courent, donc on se retrouve demain à 21h avec Marceline Loridan-Ivan. C'est quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Olivier Dupré au son ce soir, à la réalisation Lise Marie Barré comme tous les soirs. Jeanne Aléos, Corinne Amat, Romain Debecq de Lièvre préparent avec moi cette émission. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.